Radio Okapi, grand témoin.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Grand Témoin qui vous fait découvrir le parcours des personnalités, témoins de l'histoire du Congo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir comme invité le pasteur Camille Ntoto. Il est formateur en leadership et fondateur de l'ASBL Un Jour Nouveau, basé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Pasteur Camille Ntoto, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans ce magazine Grand Témoin. À la présentation, Jody Daniel Kajama, Polydor Bansunga, la mise en onde. Bienvenue à tous.
Le grand témoin.
Encore une fois, ravi de vous retrouver dans ce programme, dans cette émission Grand Témoin, qui vous fait découvrir le parcours des personnalités témoins de l'histoire du Congo. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir le pasteur Camille Ntoto. Il est, comme je l'ai dit, pasteur, il est formateur en leadership et fondateur de l'ASBL Un Jour Nouveau, qui est basé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Pasteur Camille Ntoto, encore une fois, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, bonjour Monsieur Joly.
Alors, qui est Camille Ntoto?
Eh bien, Camille Ntoto est un serviteur de Dieu, c'est un coach, un entrepreneur, mais également quelqu'un qui est passionné par le développement des potentialités des personnes qui ont un rôle à jouer dans la communauté. Nous sommes basés à Goma pour l'instant, où nous avons mis en place une structure qui aide les gens justement à découvrir, développer et déployer leur potentiel.
Bien, nous allons en savoir plus tout au long de cette émission. Alors, parlez-nous de votre vie, de votre enfance, vie des familles, les parents, les frères et sœurs, etc.
Eh bien, je suis né à Kinshasa. J'ai grandi en partie à Kinshasa et en partie en Belgique, où mes parents s'y se sont rendus pour les études. Et rentré à Kinshasa en tant que jeune adulte, j'ai fait...
Là, c'était en quelle année?
Nous sommes dans les années 88-89. Et là, j'ai fait la rencontre en 1990 ou 1990 pour les francophones, les Français, avec le Seigneur Jésus-Christ que j'ai reçu comme mon conducteur, mon maître, mon sauveur. Et à ce moment-là, quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion d'avoir une offre de travailler dans une structure qui était la première institution médiatique chrétienne à pouvoir émettre sur les ondes radio en dehors des chaînes étrangères qui existaient à l'époque et en dehors de l'OZRT ou la RTNC aujourd'hui, sous le régime du président Mobutu, et il s'agit de la radio Sangomalamu. Donc je fais partie de cette première équipe, et la radio Sangomalamu faisait partie des studios Sangomalamu, et c'est là que j'ai eu le privilège de faire la rencontre avec celle qui va devenir plus tard mon épouse.
Ah, elle travaillait aussi dans la même radio.
Elle travaillait aussi dans la même radio, nous avons été engagés pratiquement au même moment. Et il s'est avéré qu'on animait la même émission, qui était la plus longue émission sur la grille de programme de la radio Sangomalamu.
Elle était intitulée comment?
Eh bien, elle s'appelait Sangomalamu, simplement. Ah, okay. C'était l'émission Sangomalamu sur la radio Sangomalamu, tous les dimanches à partir de 14h, une émission qui durait 2 heures, et qui faisait un petit peu un résumé et un parcours de toutes les activités chrétiennes qui ont eu lieu durant la semaine. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes mariés en 1996, ça va faire maintenant 27 ans cette année, et nous avons eu l'occasion plus tard de nous rendre aux États-Unis pour poursuivre notre cursus scolaire ou académique. Et là, nous avons...
Tous les deux, vous êtes allés au même moment?
Nous sommes allés
juste après votre mariage?
2 ans après notre mariage.
D'accord.
Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où nous devions nous rendre aux États-Unis, parce que vous posez la question, vous êtes allés tous les deux, mon épouse me dira, écoute, moi je vais être la femme qui accompagne l'étudiant qui se rend à l'école. Et je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, non, moi et l'école, franchement, c'est...
Je n'en veux plus.
Je n'en veux plus. Elle a eu une très mauvaise expérience dans son cursus scolaire et académique où constamment on lui répétait que tu n'as pas ce qu'il faut pour réussir dans les études.
Oh là là.
Et elle s'est minimisée, elle s'est considérée comme étant pas à la hauteur pour les études.
Et le complexe d'infériorité.
Le complexe d'infériorité, parce qu'elle avait tellement entendu de paroles décourageantes.
Mais qui lui disait tout ça?
Des proches, des membres de famille, certains enseignants. Et moi, je lui dirais, mais écoute, si tu t'es habitué à entendre ce genre de discours, maintenant, ton mari, c'est moi. Et donc, en tant que chef de la famille, je voudrais que tu puisses t'habituer à un autre discours. Non seulement nous allons étudier tous les deux, mais je ne remplirai pas mes formulaires si tu ne remplis pas les tiens. Je crois que Dieu va te donner la capacité et il t'a donné le potentiel de réussir. Évidemment, il y a eu une petite discussion, mais tu ne sais pas, tu ne connais pas, etc. Et puis finalement, on a rempli les formulaires tous les deux. Mmh. Et chose miraculeuse, au milieu de beaucoup de tribulations, parce que c'était à peu près à la période où il y avait l'invasion de la FDL et le départ a causé certains problèmes, mais miraculeusement, on a pu avoir le visa, on a pu avoir la bourse et on s'est rendu tous les deux aux études en Californie du Sud à Vanguard University.
Bien, voilà, c'est vraiment une belle histoire. Alors revenons à votre petite enfance. Quels sont les bons souvenirs d'enfance que vous avez gardés jusqu'aujourd'hui?
Eh bien, moi, je me souviens qu'en grandissant, particulièrement à Kinshasa, j'étais celui des quatre enfants de Toto qui était le plus difficile. Très turbulent, j'aimais la bagarre, j'étais très sociable, j'étais souvent en train de conduire les matchs, les jeux, et ceux qui m'écoutent et qui ont fait partie de mon enfance vont s'en souvenir. Très engagé, j'aimais chanter,
leader, vous prenez leader. Beaucoup plus là.
Et je ne savais pas c'était quoi le leadership, mais c'est maintenant que, en rétrospect, je me souviens qu'effectivement j'en avais déjà les aspects connus du leadership, et donc, et à ce moment-là, ça va vous faire rire, Jody, je ne voulais pas parler français.
Ah.
Donc moi, c'était le Lingala et rien d'autre. Et quand mes amis parlaient le français, je me disais, mais qu'est-ce que vous cherchez à montrer? Alors, n'eût été
pourquoi
le fait...
Parce que vous n'aimez pas la langue ou quoi? Vous n'aimez
pas
la langue?
Étant petit, j'estimais que le Lingala me permettait de connecter avec mes amis. Le français, c'était pour ceux qui voulaient se montrer ou qui pensaient qu'ils étaient supérieurs aux autres. Mmh. Et donc, n'eût été le fait que les parents ont décidé à un moment donné de nous envoyer et d'aller ensemble en Belgique, eh bien peut-être qu'aujourd'hui je ne parlerai pas français. Et donc je me retrouve en Belgique et ce qui m'a vraiment marqué en Belgique,
avec c'est tous vos frères et sœurs,
avec mes frères et sœurs, nous sommes
combien
là-bas.
Enfin,
eh bien j'ai un grand frère et à ce moment-là j'avais une petite sœur, la toute dernière est venue après, elle est née en Belgique d'ailleurs, et donc deux garçons, deux filles. On se rend en Belgique et là, je dis, je n'avais plus aucun ami noir ou africain ou congolais. Donc je ne suis entouré que de petits blancs belges.
Petits blancs, ouais.
Et à ce moment-là, évidemment, je ne peux plus parler mon Lingala.
Ah oui, ah oui, ça c'est sûr.
À ce moment-là, c'est le français.
Peut-être avec vos frères et sœurs à la maison.
Même pas avec les frères et sœurs, parce que eux, par contre, le français, ils estimaient que c'était la langue des intellectuels. Et donc, eux parlaient bien français et les parents nous parlaient en français, sauf quand il fallait nous faire des remarques. À partir du moment où tu as fait une bêtise et que tu entends les parents t'appeler dans notre langue du village,
c'est-à-dire
en kiyombé, ça veut dire que tu as un problème.
Oui.
Je m'appelle Camille, mais quand j'entends papa ou maman dire « Mila », ce qui est la manière dont on l'appelle en kiyombé, là je sais que je suis en difficulté.
En tout cas, tu es mal barré.
Je suis mal barré. Et là, ils me parleront en kiyombé et nous, on répondra toujours en français. Donc c'est ainsi que, soit en Kiyombe, soit en Kikongo, on maîtrisait parfaitement la langue. On la parlait moins, mais on la comprenait parfaitement bien. Et donc mon entourage était composé de petits Belges blancs, qui étaient mes amis d'enfance.
Et est-ce que vous étiez complexé parmi ces petits Belges, ou bien vous êtes adapté rapidement, assez rapidement?
Curieusement, non. Complexé, pas du tout. Les mêmes atouts ou tendances de leadership que j'avais quand j'étais à Kinshasa, eh bien, je les ai développés pendant que j'étais en Belgique. Je pouvais me retrouver seul dans la cour de récréation, en train de diriger toute une cour de récréation pour un jeu, par exemple, où je dirais, non, voilà, vous allez vous mettre là, vous allez vous mettre là. Et mes amis reconnaissaient cela en moi. Et je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais pas du tout complexé, beaucoup d'amis, très intégrés. Et j'exerçais, justement, cette influence sur les autres.
Et parlez-nous un peu de vos parents.
Eh bien, mon père était administrateur d'hôpitaux. Il était parti en Belgique justement pour les études. Et évidemment, ma mère l'a rejoint, qui, elle, est infirmière. Et je me souviens que les parents mettaient un accent très important sur les études. Ils nous ont inculqué pendant notre croissance des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de droiture que jusqu'à présent ne m'ont jamais quitté parce qu'ils ont vraiment investi en nous et voulaient que nous puissions réussir évidemment notre vie. Et je garde un très bon souvenir de mon père qui nous a quittés il y a environ, 11-12 ans. Et ma mère est encore avec nous, gloire au Seigneur.
Mmh. Bien, quels sont les... Bon, en passant, à part ce que vous venez d'évoquer, les mauvais souvenirs, des choses qui vous ont beaucoup marqué, qui vous ont beaucoup fait mal dans votre enfance.
Eh bien, une expérience en particulier me revient toujours à l'esprit. J'étais assez distant de mon père, ou mon père était distant de moi. Il était plus proche de mes frères et sœurs, et j'attribue ça simplement au fait que j'étais extrêmement turbulent. Comme je disais, j'aimais beaucoup me bagarrer, mais généralement, je me battais quand il s'agissait d'une cause juste. Supposons que ma petite sœur est en difficulté, eh bien, je vais aller régler les comptes à la personne, ou des fois même mon grand frère, ou certains amis, où j'estime que cette situation mérite une correction, je vais le faire. Mmh. Alors, cet aspect de ma personnalité a fait en sorte que l'expérience dans mon enfance que j'avais considérée comme étant la plus mémorable, c'était des vacances de classe de neige, où quand vous êtes en cinquième année primaire, eh bien, on vous envoie à l'étranger, et là, vous quittiez la Belgique pour aller en Autriche, pour des classes de ski. Et là, dans toutes les classes qui avaient participé à ces vacances de neige, je me suis retrouvé dans un concours de slalom géant à être le premier. C'est-à-dire, j'avais réussi, le seul noir venu de l'Afrique qui se retrouve pour la première fois dans un pays montagneux où il y a de la neige, dans le concours slalom, on était en train de proclamer ceux qui avaient réussi et on est passé du dernier au premier. Et notre classe était la dernière des classes qui était programmée, qui était publiée. Mmh. Et donc on est en train de faire le compte à rebours, numéro 15, numéro 14, et tout le monde sait, parce que j'étais assez populaire, tout le monde sait que le seul nom qui n'a pas encore été cité, c'est Camille. Mmh. Et donc arrivé au numéro 2, au numéro 1, toutes les classes sont en train de scander Camille, Camille. Et on m'a remis la médaille d'or. Et je dis, je n'ai gardé aucun souvenir visuel. Pourquoi ? Eh bien parce que papa ne me faisait pas confiance de pouvoir me rendre à ces classes de neige avec un appareil photo. Il se disait, soit tu vas le casser, soit tu vas le perdre, oh là ou là on va là le là lui voler.
Oui.
Et c'est un des mauvais souvenirs qui m'est resté parce que je me disais, je n'ai que la médaille comme preuve de cette grande mémoire que j'ai de mon enfance, mais aucune photo parce que...
Pas d'image, moi-même,
pas d'image, rien du tout.
En tout cas, bienvenue dans pour vous qui venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette émission Grand Témoin. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le pasteur Camille Toto. Il est l'initiateur de l'ASBL Un Jour Nouveau, qui est basé à Goma, dans la province du Nord Kivu. Alors, pasteur Camille, qu'est-ce que vous êtes marié et vous êtes père d'une fille. Qu'est-ce que la famille représente pour vous?
La famille représente tout pour moi et je crois que, j'espère que mon épouse ne va pas m'en vouloir lors de notre introduction et ma présentation, j'aurais dû dire évidemment, avant de parler de coach, de formateur, de pasteur ou d'enseignant, d'abord je suis un homme heureux parce que je suis marié à la femme la plus extraordinaire sur la planète, mon épouse Esther Toto, et nous avons une magnifique fille, Anaëlle. Alors la famille c'est le fondement, c'est la cellule de base et je crois que tout part de là. Je n'aurais pas été en mesure d'accomplir les choses que je fais aujourd'hui, n'eût été le fondement et la fondation que j'ai reçue au niveau de la famille. C'est pourquoi je crois qu'il est absolument capital que nous revenions à ces valeurs de base qui sont inculquées non pas à l'école, c'est-à-dire l'école peut faire son travail après, mais dès le moment où l'enfant vient dans la famille. Et il n'est pas simplement question de donner des instructions, des enseignements ou des remarques, mais il est question de démontrer un exemple que les enfants seront en mesure de suivre plus tard. Mmh. Donc je suis conscient que ma relation avec mon épouse aura un impact sur notre fille. Et donc, je ne lui dis pas seulement de bien faire, mais je fais bien pour qu'elle sache bien faire quand elle va grandir.
Pour suivre l'exemple.
Absolument. Et quand viendra le temps de choisir son compagnon de vie, qu'elle puisse avoir la barre assez haut, qu'elle ne puisse pas avoir ou accepter la compagnie de quelqu'un qui ne la mettra pas à son niveau de respect et ce qu'elle mérite.
Bien, une autre question, Pasteur Camille Toto. Vous êtes allé faire vos études aux États-Unis avec votre épouse et c'était dans quel domaine?
Eh bien, j'ai fait des études en leadership. D'abord, ma licence, je l'ai obtenue avec trois différentes concentration. J'ai fait les études pastorales, théologiques et missiologiques. Ça, c'était au niveau de la licence. Et la maîtrise, je l'ai faite en leadership. Et c'est là que j'ai en fait découvert que l'un des grands problèmes que nous avons dans nos pays en voie de développement n'a rien à voir avec les ressources du sol et du sous-sol. Nous sommes évidemment l'un des continents en Afrique les plus riches du monde. Et la question est de savoir qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'est pas au niveau de performance des autres États du monde. Pourquoi ne sommes-nous pas dans le concert des nations, des pays industrialisés? J'ai appris récemment que les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, ont accepté d'autres pays dans leur groupe. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi pas la RDC ou certains autres pays. Et pendant que je faisais ces études, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, mais c'est un problème de leadership. Et je ne parle pas seulement du leadership politique, mais je parle du leadership à tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie sociale, que ce soit académique, administratif, social, familial, ecclésiastique, que lorsque nous serons en mesure d'inculquer une notion de leadership visionnaire et responsable, nous commencerons à voir le changement dans tous les domaines de notre vie sociale. Et donc, ces études m'ont vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses, et c'est là que j'ai compris, Jody, que très jeune, très petit, lorsque je conduisais mes amis, que ce soit à Kinshasa dans le quartier ou en Belgique lors de la cour de récréation, eh bien il y avait cette faculté en moi que je ne pouvais pas identifier.
C'était naturel.
C'était naturel. Ce n'est que plus tard que j'ai commencé à développer ces atouts et à étudier, à apprendre un peu là-dessus.
Mais être leader, est-ce que ça s'apprend ou c'est, comme on le dit, naturel?
Eh bien, il y a deux écoles de pensée. Il y a une école de pensée qui dit que le leadership est inné. Et il y a une école de pensée qui dit que le leadership est instruit. Donc, en d'autres termes, vous apprenez. Et moi, je suis de l'école de pensée qui embrasse les deux. Je crois qu'il y a des personnes qui naissent avec ces atouts, mais ils doivent les développer au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas nécessairement ces atouts en eux dès le départ, mais qui, en apprenant, en étant coachés, en étant instruits, en étant conduits par quelqu'un, peuvent effectivement devenir de grands leaders.
Festival Sans Voix pour la Paix. Ensemble, faisons vibrer nos voix au rythme de la paix en RDC. Le 22 octobre, à partir de 12h, au village Iossi à Goma, en marge de la célébration de la Journée internationale de la paix. Au menu, un grand chœur de 100 choristes qui chantent à l'unisson pour la paix au Congo. Et une collecte spéciale sera organisée en faveur des déplacés de guerre. Le festival Sans Voix pour la Paix Gospel Mass Choir for Peace, célébrant tous ensemble la paix par le gospel pour un Congo fort et prospère.
Grand témoin reçoit aujourd'hui le pasteur Camille Toto, qui est l'initiateur de la semaine Un Jour Nouveau. Il est coach formateur. Alors, comment êtes-vous devenu pasteur?
Eh bien, la pastorale, c'était à partir du moment où j'ai réalisé que mon avenir ne pouvait pas se concevoir en dehors de Jésus-Christ. J'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et je commence à marcher avec lui. Et je vais vous
là,
faire...
Là, c'était ici à Kinshasa.
Ça, c'était à Kinshasa. À ce moment-là, j'entendais une voix qui me disait « Fais attention, n'entre pas dans ces histoires-là ». Et ça, c'était avant d'accepter le Seigneur. Parce que le jour où tu vas y entrer, tu ne vas plus jamais ressortir. Je ne suis pas encore chrétien, mais j'entends cette voix et je fais tout pour éviter ces soi-disant groupes de prière où les enfants ou les jeunes sont en train de prier en transpirant, où il y a des gens qui tombent, il se passe des journées entières à jeûner, à évangéliser. J'essaye d'éviter toutes ces réunions bizarroïdes pendant qu'on est en train de m'inviter.
Oui.
Et un jour, eh bien, on m'a invité à un endroit et après avoir prétexté ou donné plusieurs excuses, je me retrouve à quelques mètres de l'endroit où on m'invitait. Quelqu'un sort et il me dit « Mais Camille, c'est justement ici !» Et il n'y a pas moyen d'y échapper. Eh bien, la voix qui me parlait avait raison. Je suis entré dans cette réunion de jeunes je ne suis plus jamais ressorti.
C'était où, quand?
Là, c'était à Mongafula. Nous sommes peut-être en 1992. Et je ne suis plus jamais ressorti. Et là, comme je jouais à la guitare, je jouais au synthétiseur, automatiquement, on me confie la conduite de la louange et l'adoration. Et plus tard, je vais commencer à enseigner. Et puis, je vais commencer à prêcher. Et puis, le Seigneur, à un moment donné, me montre qu'en fait, c'est ce à quoi je suis appelé. Je suis appelé à conduire ces brebis et à m'assurer qu'elles ont la nourriture spirituelle dont elles ont besoin. Et c'est cette confirmation qui a continué plus tard avec la consécration, etc.
Mais il y a dans la vie des gens qui ont plusieurs talents, ou qui ont plusieurs, expertises ou qualités. Alors comment savoir ou découvrir, les talents primordiaux ou la partie majeure, c'est qu'il faut plus développer par rapport aux autres.
Exactement, et c'est un des défis que la plupart des gens, auxquels la plupart des gens font face, c'est voilà, j'ai plusieurs dons, j'ai plusieurs talents, j'ai plusieurs aptitudes, mais dans quel domaine dois-je me focaliser? Moi, je dirais, il y a plusieurs approches. L'une des approches, c'est fais ce que tu peux faire au moment où tu peux le faire. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à conduire la louange et l'adoration avec la guitare et puis avec le synthétiseur, il y avait une opportunité de le faire. Et fais-le le mieux possible, parce que certaines choses, nous les découvrons en tâtonnant. Et puis, à un moment donné, il est arrivé que la personne qui devait enseigner n'était pas là ou qui devait prêcher n'était pas là. On a demandé, mais Camille, est-ce que tu peux couvrir? Et là, je me rends compte et je découvre que non seulement la réponse de l'auditoire est favorable, mais en plus de ça, il y a des personnes qui sont bénies par ma faculté d'enseigner et de communiquer. Oui. Et là, je commence à développer ça de le mieux possible. Alors, et puis plus tard, évidemment, je deviens pasteur et puis coach. Ce que je dirais simplement, c'est que Dieu n'équipe et n'outille personne pour rien. C'est-à-dire que toutes ces facultés qu'il met en nous doivent être utilisées. La question est de savoir maintenant, selon la sagesse que Dieu nous donne, à quel moment je vais l'exercer. Par exemple, aujourd'hui, je ne conduis plus la louange et l'adoration, je ne joue plus à la guitare depuis un moment, et le synthétiseur, parce que je suis focalisé dans un autre domaine d'activité des dons qui m'ont été confiés par le Seigneur. Donc je dirais à chacun, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez au moment où l'opportunité se présente. Et puis il y a des indicateurs qui vont montrer qu'effectivement vous êtes doué à le faire, la réponse des personnes auprès desquelles vous exercez un ministère, l'excellence que vous apportez à ce travail et également la satisfaction interne que vous avez vous-même.
Et la facilité avec laquelle vous faites cela.
Absolument, la facilité avec laquelle vous faites cela et c'est une indication que c'est un prolongement de vous-même. Parce que nous ne cherchons pas à devenir quelqu'un d'autre, mais nous cherchons à être la meilleure version de soi. Même. Et quand vous le faites de manière tout à fait naturelle, des choses que les autres ont besoin d'apprendre pour pouvoir les faire, c'est à ce moment-là que vous découvrez que c'est un domaine pour lequel vous avez été outillé pour exercer un impact.
Mais il y a des gens dans la vie qui ont peut-être un potentiel qui est enfoui, caché en eux. Comment les découvrir?
Eh bien, c'est l'une de mes missions. J'ai découvert que ma mission sur Terre, c'est d'aider chaque individu à découvrir, développer et déployer son potentiel. Nous sommes conditionnés généralement par notre société à penser que nous avons des limites. Et ces limites qui nous sont imposées par notre société,
par l'éducation, le système de pensée,
eh bien nous les embrassons. Je vous rappelle l'expérience de mon épouse. Son entourage lui dit « tu ne pourras pas réussir dans les études ». Eh bien, je dis, laisse-moi te dire que de sa promotion, elle était la première quand elle a terminé ses études et qu'elle a eu sa licence. C'était ce conditionnement qui lui faisait penser qu'elle ne pourrait pas y arriver. Alors, nous mettons les gens dans une position où ils peuvent non seulement être en contact avec leur véritable identité, mais découvrir les outils avec lesquels Dieu les a placés sur terre. Je suis ici dans votre studio, je dis, et je constate qu'il y a des caméras, il y a des micros, il y a une table, il y a un trépied. Chaque élément qui se trouve dans ce studio a été placé ici pour un objectif et sert à une utilité. Et donc, je ne peux pas utiliser le trépied comme un micro, ni une caméra comme un synthétiseur, parce que leur forme et leur capacité est différente. C'est ce que nous aidons les gens à comprendre dans nos classes de leadership. Vous avez reçu une forme, et quand je parle de forme, c'est F-O-R-M-E, il y a un auteur, Eric Ries, qui a parlé de F, ce sont les forces spirituelles, O, c'est l'orientation du cœur. R, c'est ce que vous avez comme... maintenant, ça m'échappe. M, c'est votre manière d'être. Et E, ce sont les expériences. Et tout ça vous a été donné avec un objectif. Donc, vous avez ça en vous pour l'utiliser pour le bien-être de la société. R, ce sont les ressources, pardon.
Les ressources, voilà. OK.
F-O-R-M-E.
D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez étudié en Belgique, Kinshasa en Belgique, vous êtes retrouvé aux États-Unis avec votre épouse, et puis des États-Unis, directement, vous revenez au pays pour vous installer à Goma. Pourquoi ?
Eh bien, à ce moment-là, nous sommes en train de terminer les études aux États-Unis. Nous sommes en 2002-2003, et là, nous recevons un email. Et quelqu'un nous envoie un email dans lequel on parle de la situation catastrophique qui se déroule à l'est de la République. Ça nous touche, on est frappé et on se dit mais il faut faire quelque chose. Ce n'est pas possible que ces choses soient en train de se produire dans notre pays et la plupart d'entre nous ne sommes pas au courant. Nous savons qu'il y a une guerre, mais nous ne savions pas le degré des atrocités qui s'y déroulaient. Alors ce qu'on fait, c'est on va partager ce email à certains de nos amis, inclus des professeurs sur le campus, et l'un des professeurs répond...
C'est quelqu'un d'ici qui vous a envoyé un email.
C'est quelqu'un d'ici, du Congo, qui nous a envoyé un email pendant qu'on est aux États-Unis, et l'un des professeurs qui reçoit ce email que nous avons envoyé nous répond en disant « Merci d'avoir partagé, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et à ce moment-là, je dis, nous n'avons jamais été à l'Est, nous n'avons aucun contact, nous ne parlons pas le Swahili. Et tout ce qu'on a pu lui répondre, c'est bon, à ce niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est prier. Mais cette question qu'il nous a posée est restée dans notre cœur comme si c'est Dieu qui disait, « Maintenant que vous savez, qu'allez-vous faire ? Now that you know, what are you going to do ?» Et évidemment, la question, mais qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce qu'on va faire?
Nous ne sommes qu'un simple couple. Oui. On parle de millions de morts. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais quand Dieu vous veut quelque part, il finira par orchestrer les circonstances pour que vous vous y retrouviez. Et c'est ça qui s'est passé. Une organisation nous a contactés quelque temps plus tard pour nous dire, voilà, nous avons une opportunité de commencer une œuvre, une activité au Congo. Est-ce que vous voudriez bien nous aider? On a appris que vous terminiez vos études. Et évidemment, on disait oui, on pensait que c'était certainement Kinshasa. Aux États-Unis, ils vont certainement démarrer quelque chose dans la capitale. Et puis, à un moment donné, ils disent non, ce ne sera pas à Kinshasa. Ce sera à Goma.
À Goma.
Et on dit, Goma. Et vous savez, quand les chrétiens n'ont pas le courage de dire non, on a dit simplement, bon, on va d'abord prier.
On va chercher la volonté de Dieu.
On va chercher la volonté de Dieu.
Oui.
Et là, donc, on a refusé la première fois, on a dit, on continue à prier la deuxième fois, et entre la deuxième et la troisième fois, on a assisté à une conférence où l'orateur, Miles Monroe, parlait de notre responsabilité de chrétien en tant qu'ambassadeur de Christ. Et pendant qu'il parlait dans cet enseignement, il a fait une analogie entre l'ambassadeur dans le monde séculier et l'ambassadeur chrétien que nous sommes. L'ambassadeur dans le monde séculier est envoyé par un gouvernement auprès d'un autre gouvernement. Mais il va plus loin. Il dit c'est le chef d'État du gouvernement qui envoie cet ambassadeur plénipotentiaire auprès du chef d'État de l'autre gouvernement.
Pour le représenter.
Pour le représenter. Et il doit même donner ses créances. Alors, il dit... Tout ce qui concerne l'ambassadeur est pris en charge par le gouvernement qui l'envoie. Son logement, son transport, les études des enfants, etc. La seule chose dont l'ambassadeur doit se préoccuper, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pensée du chef d'État qui m'a envoyé. Parce que s'il y a une crise entre ces deux États, eh bien l'ambassadeur devient la bouche du chef d'État qui l'a envoyé. Il doit donner la position...
La position officielle
de
son État.
Et on a compris dans cet enseignement que Dieu était en train de nous dire, si je vous envoie quelque part, votre sécurité, c'est moi qui m'en occupe, la provision de vos besoins, c'est moi qui m'en occupe, la direction, c'est moi qui m'en occupe, tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est de savoir ce qu'il y a dans ma pensée. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné de surcroît, Matthieu chapitre 6. Et là, nous comprenons que Dieu est en train de nous donner un message. Alors nous allons rencontrer ce fameux groupe, ils nous parlent de leur vision, et comme ils ont touché les médias, on s'est dit, waouh, ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire.
Il s'agit de quel groupe?
Ils s'appelaient Light of Africa Network, ils sont à Redding, en Californie à ce moment-là. Alors, quand ils nous ont exposé la vision, on a dit oui, on aimerait bien faire cela, on aimerait bien nous engager avec vous, mais nous n'avons que trois préoccupations. Ce ne sont pas des conditions, ce sont des préoccupations. Numéro un, je suis en train de terminer mes études, donc j'aimerais bien finir ma thèse. Numéro deux, nous n'avons jamais été à l'Est, bon, on aimerait quand même voir. Et puis numéro trois, pendant qu'on étudiait aux États-Unis, on a accumulé des dettes parce qu'il fallait payer les livres, etc. La vie coûte cher là-bas, les études coûtent assez cher malgré la bourse qu'on avait eue. Et on leur a présenté ça, ils nous ont demandé de sortir de la salle et après ils nous ont rappelé dans la salle pour dire, écoutez, vous avez parlé de trois choses. Numéro un, vous voulez terminer vos études. Eh bien, nous aimerions bien que vous puissiez achever votre thèse de maîtrise et pendant ce temps, nous allons vous payer un salaire entier comme si vous travailliez pour nous. Numéro 2, vous avez parlé d'aller à Goma. Eh bien, l'un des directeurs va se rendre à Goma dans quelques jours. Vous pouvez aller avec lui et nous allons couvrir tous les frais. Et puis, numéro 3, vous avez parlé des dettes que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous donner le montant? On leur a parlé du montant. Ils diront, bon voilà, ce qu'on va faire, c'est que nous allons couvrir tout ce que vous devez et puis on va trouver un moyen pour que vous puissiez nous rembourser plus tard. Alors, on sort de cette réunion et on se regarde et on se rappelle de l'enseignement sur l'ambassadeur. Dieu a enlevé tous les obstacles qui pouvaient nous empêcher de nous rendre à Goma. Et évidemment, vous comprenez que nos amis proches et membres de famille se demandaient, on ne termine pas les études en Californie pour aller dans une zone de guerre
ah
en
oui.
2005.
J'imagine, la famille n'était pas d'accord avec
la
ça.
La famille n'était pas d'accord, nos amis proches n'étaient pas d'accord, ils se disaient, mais qu'est-ce que vous cherchez? Et puis, Camille, tu vas envoyer ta femme dans la capitale mondiale des violences sexuelles. Oui. Est-ce que tu es réaliste? Est-ce que ce que tu fais là a du sens? C'est logique.
Ouais.
Mais c'était la volonté de Dieu et Jody, nous ne l'avons jamais, jamais regretté.
Vous avez pris votre avion?
Nous avons pris notre avion.
Jusqu'à Goma.
Nous sommes allés à Goma pour la première fois pour aller aider une radio locale là-bas. Et puis nous sommes rentrés aux États-Unis pour nous préparer à y aller définitivement. On est arrivé là-bas, on n'avait pas de maison. On habitait avec un couple, le couple Joe et Lynn Lucy. On est resté avec eux pendant un moment, pas de moyens de transport. Et on a commencé le travail comme ça, dans le tas. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'insécurité dans la ville. Vous pouvez vous réveiller le matin et vous trouvez
des corps
à gauche, à droite. Et puis on vous annonce que voilà, aujourd'hui il ne faut pas sortir parce que ceci, cela. Mais c'était la volonté de Dieu. Et donc nous sommes là depuis 2005 et nous croyons que nous vivons les meilleures années de notre vie.
Depuis 2005.
Depuis 2005.
Comment vous avez évolué jusqu'à aujourd'hui?
Eh bien, au départ, nous faisions des émissions radio que nous enregistrions et nous distribuions à différentes chaînes de radio parce que nous avons réalisé que la situation qui se développait à l'est du pays n'était qu'une conséquence du génocide rwandais de 1994 où certaines personnes avaient pris les médias en otage pour répandre des messages de haine au Rwanda.
Avec l'expérience et la radio Mille Collines.
Exactement. Mmh. Cela a conduit évidemment à l'extermination de beaucoup de membres d'une tribu, enfin sachant que beaucoup sont morts également. Mmh. Et on s'est dit, mais si les médias ont joué un tel rôle dans la destruction, alors nous pouvons utiliser les mêmes médias pour jouer un rôle de construction cette fois. Et donc on préparait des émissions sur le leadership, la paix, la réconciliation, l'amour, on parlait également...
Le pardon.
Le pardon, etc. Et donc quand on enregistrait ces émissions, on les distribuait à certaines chaînes de radio. Aujourd'hui, il y en a environ une cinquantaine ou une soixantaine qui diffusent encore certaines de ces émissions. Et on est parti de là. Et on a commencé en plus à travailler avec les femmes qui étaient victimes de violences sexuelles. Mon épouse a développé un ministère auprès des femmes. Et puis à un moment donné, on se rend compte que ces femmes venaient avec des enfants. Et on se disait, mais pourquoi ces enfants ne vont pas à l'école? Et la question était assez stupide parce que les femmes n'avaient pas les moyens d'envoyer ces enfants à l'école. Et on s'est dit, il faut que ces enfants aillent à l'école. On a développé un programme de sponsoring où on envoyait les enfants dans les écoles de la place. Et plus tard, on s'est rendu compte que le problème de violence continuait. Et un soir, Jody, mon épouse, rentre à la maison. Et chaque fois, elle me racontait des histoires horribles de femmes qui avaient été abusées.
Des histoires qui vous brisaient le cœur.
C'était impossible de croire qu'un être humain est capable de faire ça à un autre être humain. Et un soir, elle rentre à la maison et elle veut me raconter encore une histoire. Et cette fois-là, je dis, chérie, je suis désolé, c'est trop fort, je ne peux pas écouter cela. Mmh. Et elle se fâche un peu parce qu'elle dit, mais ce sont les hommes du Congo qui font ça aux femmes. Toi aussi, tu es un homme du Congo. Et je disais, mais tu veux me rendre maintenant responsable. Mais elle était tellement révoltée. Mmh. En fait, ce qui se passait dans mon cœur, Jody, c'est que je me disais, Seigneur, nous sommes en train d'essayer d'éradiquer ce problème. Mais il semble devenir de plus en plus grave. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce que nous ne faisons pas? Ou qu'est-ce que nous faisons mal? Et Dieu me répondra en disant, Camille, vous et toutes les autres agences qui aident les femmes et les enfants, vous faites bien. Mais vous vous adressez aux conséquences. Les femmes et les enfants sont les conséquences d'un mal qui réside dans le cœur des auteurs et des criminels. Et plus de 90% des responsables de ces crimes sont des hommes. Alors je me disais, mais, et alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que dans un pays organisé, ces hommes seraient simplement en prison. Mais quand le système judiciaire n'est pas au niveau où on souhaiterait qu'il soit, eh bien, ils vont simplement se retrouver dans les rues, ces hommes. Mmh. Et si nous n'attaquons pas, si nous n'allons pas chercher le cœur de l'homme, pour l'aider à comprendre quelle est sa véritable identité, pour embrasser sa responsabilité et connaître sa destinée, eh bien, ces hommes vont continuer à commettre les mêmes crimes. Et nous avons développé maintenant un ministère qui s'occupait essentiellement de ramener les hommes à leur véritable nature, comme Dieu les avait créés. Et là, nous avons un ministère des médias, des femmes, des jeunes, des enfants. Et quelques temps après, et pendant tout ce temps, nous continuons à enseigner le leadership. Là, nous n'avons pas d'infrastructure. Les jeunes viennent chez moi le matin au balcon. Je leur donne des cours de leadership. Et puis plus tard, on développe l'académie. Et puis, on va mettre sur pied l'église. Et il n'y a pas trop longtemps, on s'est dit, mais nous faisons beaucoup de travail au niveau des hommes, des femmes et des jeunes. Et c'est un travail de réparation. Mais si nous faisions plutôt un travail de préparation, nous n'aurions plus à faire la réparation. C'est-à-dire si nous prenons l'homme ou la femme congolais au niveau le plus bas, c'est-à-dire en tant qu'enfant, et nous inculquons les valeurs d'intégrité, d'amour, etc. pendant qu'ils sont en train de grandir, eh bien quand ils atteindront le stade de la maturité, eh bien nous n'allons pas déplorer des violences ou un manque de confiance en soi, etc. Et c'est comme ça que nous avons commencé le complexe scolaire Un Jour Nouveau, il y a 8 ans de cela, en 2015. Aujourd'hui, c'est l'une des écoles phares de la ville
de la province. Voilà. Alors, Un Jour Nouveau, comment est venu ce concept? Qu'est-ce qui vous a motivé à adopter ce concept-là, Un Jour Nouveau?
Alors, le concept lui-même est venu d'un passage de la Bible dans Ésaïe 43, 18 et 19, où le Seigneur dit, franchement, ne vous rappelez plus des événements passés, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Quand nous étions aux États-Unis et qu'on parlait de la RDC, on parlait toujours de la RDC en mal. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la capitale mondiale des violences sexuelles, le nombre de morts qui a dépassé le nombre de morts de la Deuxième Guerre mondiale, on parle des pays corrompus d'Afrique, la RDC.
Toujours les mauvaises choses. Voilà.
Et toujours les mauvaises choses. Et on s'est dit, il doit y avoir quelque chose avec la RDC, parce qu'on ne peut pas descendre si bas si Dieu n'a pas un plan de nous relever plus haut. Et nous avons vu ça dans l'histoire d'Israël également. Et c'est comme ça que, pendant que nous étions en train de réfléchir sur ce concept, l'idée d'un jour nouveau nous est venue à l'esprit. Qu'en fait, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Et c'est ce que nous voyons maintenant dans plusieurs domaines. Je suis ici chez vous, jeudi, Kinshasa est méconnaissable. Ce n'est pas la ville dans laquelle je suis né ou j'ai grandi. Je vois des choses que...
Beaucoup de choses ont changé.
Que je ne pouvais même pas imaginer. C'est vrai qu'on peut encore se plaindre de certaines attitudes et comportements des Quinois ou de nos compatriotes congolais. Mais déjà, nous commençons à voir les signes d'un pays qui est en train de devenir une nation émergente. Nous étions à Goma quand nous avons assisté de loin aux événements de la francophonie. Oui. Eh bien, si vous m'aviez montré ces images il y a quelques années et que vous m'avez demandé de deviner dans quel pays cela est en train de se produire, en dehors des sapeurs où j'aurais reconnu que c'est la RDC, je n'aurais pas été en mesure de citer la RDC. Oui. Et j'en suis fier, très fier.
Donc ce sont des signes qui démontrent qu'il y a un changement qui arrive.
Je vous dis, la plupart des guerres que nous avons connues sont venues de l'Est. J'ai la conviction que la croissance, l'émergence, l'apogée de la RDC aura quelque chose à voir avec l'Est de la République également. Je suis persuadé que ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des prophéties sur cette nation par des individus qui n'ont rien à voir avec la RDC. Mmh. Nous avons eu des prophéties des personnes qui venaient de l'Asie et qui disaient que, eh bien, vous allez voir, de cette nation vont sortir des personnes qui vont influencer le monde entier. Et je crois que la nation, en elle-même, quand on regarde même les ressources du sol et du sous-sol, vous ne pouvez pas parler de l'avenir du monde sans citer la RDC. Parlons du cobalt. La révolution industrielle, la révolution automobile qui va avoir lieu dans quelques années où tous nos véhicules
avec les
seront
véhicules électriques
oui. vont avoir besoin de cobalt pour la confection de ces batteries.
Mmh. Et nous, toutes ces matières sont ici chez nous.
Nous détenons plus de 50% des réserves mondiales. Plus de 50% des réserves mondiales de cobalt. Ne parlons même pas du coltan, ne parlons pas du cuivre, ne parlons pas de l'or, du lithium. Ça veut dire que vous ne pouvez pas parler de l'avenir du monde sans citer la RDC. Et je crois qu'avec le leadership qu'il faut, au point de vue politique, administratif, académique, scolaire, ecclésiastique, c'est très important, avec le leadership qu'il faut, nous serons en mesure de positionner notre pays comme étant l'un des pays phares dans le monde.
Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banane Doulée au 323. Le 42-502, c'est Radio Capi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Vous écoutez le magazine Grand Témoin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Camille Toto. Il est coach et puis il enseigne l'entrepreneuriat, le leadership. Il est initiateur d'Un Jour Nouveau. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer l'impact que votre ministère Un Jour Nouveau a eu à Goma ou dans la province du Nord Kivu en général?
Je peux simplement vous donner quelques indices parce que nous n'avons pas mené des études pour savoir exactement quel est l'impact de un jour nouveau. Mais je me retrouve à Béni un jour et je suis en train de visiter la ville. On m'amène chez le maire. À l'époque, je ne pourrais pas non plus lui dire qui il est. Mais l'un des ministres du gouvernement provincial est avec nous et il me présente au maire de la ville en disant « Si vous entendez nos jeunes émerger dans le leadership, eh bien, c'est un jour nouveau qui est certainement derrière. » Alors, je l'entends faire cette introduction et je me dis, mais tiens, lui et moi n'avons pas une relation particulièrement proche, nous ne nous connaissons pas bien, et il fait cette introduction, et de l'autre côté, dans le bureau du maire, quelqu'un qui réagit en disant, en fait, tous les jeunes que vous voyez qui ont maintenant une vision, une mission, qui sont en train de faire bouger les choses dans la société, maintenant, ils sont certainement passés par les mains de ce monsieur que vous voyez devant vous. C'est à ce point-là que je me disais, mais tiens, peut-être qu'effectivement, on est en train d'avoir un certain impact. Il n'y a pas longtemps, je parle avec quelqu'un qui est basé en Belgique, elle est à Liège, et pendant qu'elle me parle, elle me dit « Mais Camille, comment ça va ? Mais je vais très bien, etc. » Et elle me dit « Comment va l'école ?» Je dis « Ah, mais tiens, tu as entendu parler de l'école. » Il dit ceci, « Dans notre famille, une famille de parlementaires à Goma, nous ne pouvons pas parler d'enseignement ou d'éducation sans citer un jour nouveau. Tous les enfants de notre famille doivent absolument et impérativement aller dans cette école si nous voulons nous assurer qu'ils vont avoir un bon enseignement. » Ce sont certaines indications qui me disaient, mais tiens, peut-être qu'effectivement, nous ne sommes pas évidemment une gigantesque organisation, mais l'impact que nous avons eu a porter des fruits dans plusieurs domaines de la vie sociale.
Je me souviens avoir plusieurs fois visité vos bureaux et j'ai trouvé les photos de tous ces grands leaders. Vous avez Nelson Mandela, vous avez Indira Gandhi, tout ça, Mère Teresa et les autres, Lumumba et peut-être Musée Laurent Désiré Kabila. Pourquoi toutes ces images-là? C'est quoi le but?
Eh bien, comme je vous ai dit, moi j'ai évolué à l'étranger, en Occident, et chaque fois qu'on parlait de personnes qui méritait d'être cité comme exemple et modèle, je ne voyais personne qui avait ma couleur de peau. ceux qui avaient ma couleur de peau, on les citait dans les informations. Voilà un criminel, voilà un bandit, voilà quelqu'un qui a détourné, voilà un menteur, etc. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est pas vrai, il faut réécrire l'histoire. Dans mon cours de leadership, je pose la question à mes étudiants. L'une des questions que je leur pose, c'est de savoir qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et évidemment, tout le monde répond, Diego Cao, Diego Cao, Diego Cao. Et je leur dis, mais qui vous a dit que l'embouchure était perdue? Pour découvrir quelque chose, il faut qu'il n'ait pas existé avant. Moi, je viens du Congo central. Mes aïeux n'ont jamais dit que l'embouchure était perdue. Mais nous sommes en train d'écouter et de lire une histoire qui a été écrite selon la perspective européenne et occidentale. Alors, je mets ces affiches sur les murs pour que les jeunes enfants qui grandissent à un jour nouveau puisse vouloir devenir un jour un Nelson Mandela, un Patrice Lumumba, soit en mesure de devenir une Serena Williams dans un domaine quelconque de la vie sociale, qu'il est possible, étant noir, étant africain, étant congolais, de marquer le monde entier.
Donc ce sont des rôles modèles que vous présentez à la jeunesse.
Ce sont des rôles modèles qui méritent d'être cités et que malheureusement l'histoire semble nous cacher parce que simplement l'histoire est écrite par d'autres personnes. Nous n'écrivons pas, nous étions de la tradition orale.
Orale, oui.
Et bien cette tradition orale fait en sorte que lorsqu'un vieillard meurt chez nous, c'est toute une bibliothèque qui disparaît.
Il s'en va. Est-ce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire aujourd'hui?
Il faut le faire maintenant même. C'est maintenant qu'il faut réécrire l'histoire et je suis en train de positionner nos enfants au complexe scolaire à un jour nouveau, non seulement être des leaders, mais des entrepreneurs et des personnes qui vont réécrire notre histoire. Vous savez, on m'a appris sur Charlemagne, Louis XVI, Louis XIV, et qu'est-ce que j'ai à faire de ces gens aujourd'hui si ce n'est que la connaissance générale? J'aurais souhaité qu'on me parle de Chaka Zulu, j'aurais souhaité qu'on me parle plus de
Simon Kimbangu.
Oui. Que je puisse savoir que je viens d'une lignée importante qui non seulement a déjà marqué l'histoire, mais peut encore marquer l'histoire de l'humanité pour les années à venir.
Bien, vous écoutez l'émission Grand Témoin. On s'achemine petit à petit vers la fin de ce programme. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le pasteur Camille Toto, coach en leadership et initiateur de l'ASBL Un Jour Nouveau qui est basé à Goma. Vous êtes aussi impliqué dans l'entrepreneuriat. Alors dites-nous pourquoi l'entrepreneuriat vous intéresse tant?
Eh bien d'abord parce que vous connaissez le taux de chômage en RDC. Vous êtes d'accord avec moi que nous ne serons pas tous ministres
gouvernement. Oui, ça c'est sûr.
Et bien qu'il y a une course effrénée à devenir membre du Parlement aujourd'hui, quand on entend les avantages de certains d'entre eux, tout le monde veut être là. Il n'y a que 500 sièges avec une population entre 80 et 100 millions d'habitants.
Oui.
Donc, si nous sommes d'accord avec cette réalité de notre contexte, eh bien, il faut chercher d'autres alternatives. Et je pense que l'entrepreneuriat est une de ces alternatives. J'ai évolué en partie aux États-Unis où je crois que l'une des choses que j'ai apprises, c'est le possible. Qu'il est effectivement possible. La Californie est un de ces États qui a été leader dans beaucoup de choses. Énormément de choses sont parties de là pour influencer tous les États-Unis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre un Californien et un Congolais? Ou qu'est-ce qu'il y a de différent entre un Américain et un Congolais? C'est-à-dire, je crois que ce que l'Américain peut faire, le Congolais peut le faire. Et donc, en encourageant les jeunes et les moins jeunes à l'entrepreneuriat, je me dis, il est possible de trouver des solutions innovante aux défis que rencontre notre société et même en faire des opportunités d'emploi pour les autres. C'est-à-dire, c'est le combat contre le chômage, mais c'est également la lutte pour la créativité et le leadership dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui utilisent les moyens de bord. Par exemple, je vais vous donner un exemple, ce jeune garçon qui a été en mesure de confectionner des pavés en utilisant des résidus et des déchets. Il en fait des pavés. Et il a développé sa petite entreprise et là, il est en train de décrocher des marchés à gauche, à droite. Et Un Jour Nouveau l'a utilisé pour essayer de mettre ses pavés sur la cour de récréation du complexe scolaire Un Jour Nouveau. Mmh. Je crois en la capacité des jeunes. Je crois également en la capacité entrepreneuriale du Congolais. Je demande simplement à tous ceux et toutes celles, et pas seulement les autorités politico-administratives, mais tous ceux et toutes celles qui en ont les moyens de soutenir ces initiatives entrepreneuriales.
Et vous avez un incubateur.
Nous avons un incubateur à Un Jour Nouveau qui encadre ces entrepreneurs. Nous leur donnons des formations, nous leur donnons la capacité de pouvoir analyser sur le plan comptable leurs activités et nous avons financé certains d'entre eux également.
Ils ont bénéficié de l'espace coworking. Ils peuvent travailler ensemble.
Ils peuvent travailler ensemble. Ils peuvent s'inspirer les uns les autres. Et ils peuvent avoir une adresse. Parce que, généralement, quand on démarre une entreprise, bien, il faut que quelqu'un puisse vous retrouver quelque part. Donc, nous leur donnons cette opportunité également.
Alors, pasteur Camille Toto, comment voyez-vous le Congo dans 5 ans, dans 10 ans?
Avec le leadership qu'il faut, à tous les domaines, évidemment, je dois toujours mettre un accent là-dessus. Quand on parle de leadership, tout le monde pense président de la République. Oui, c'est le président, c'est le premier ministre, c'est le président du Sénat, mais c'est aussi le responsable d'entreprise, c'est aussi le pasteur d'église, c'est aussi l'évêque, c'est aussi le responsable d'une école. On parle de leadership. Avec le leadership qu'il faut, dans 5 ans, je vois des progrès immenses. Je vois la capacité de la RDC de s'imposer. Je vois la capacité de la RDC de pouvoir positionner au point de vue local et international des personnes qui vont donner une perspective qui n'a jamais été employée jusque-là. Je vois la fin de l'appellation de la capitale mondiale des violences sexuelles. Je crois en la fin de cette guerre. Je crois en la stabilité de la République démocratique du Congo. Ces nations qui nous ont ridiculisés pendant toutes ces années vont voir un Congo fort
et
prospère.
Émergent.
Et très, très, très bientôt, je dis, j'en suis persuadé. Je vois l'unité des Congolais. Je vois la capacité pour le Congo non seulement de vendre le cobalt, mais de fabriquer des batteries et d'être en mesure de mettre sur pied des véhicules électriques. Je vois des industries en RDC. Et je vois l'Église dans une autre position. Plutôt que d'être spécialisé dans toutes sortes de vices, spécialisé dans des démonstrations tout à fait excentriques. Je vois l'Église être en mesure de former une nouvelle race de chrétiens qui réalisent qu'ils ont une responsabilité spirituelle avec des impacts socio-économiques. Que nous ayons des millionnaires et des milliardaires qui, le dimanche, peuvent se rendre à l'église pour louer et adorer le Seigneur.
Et comment expliquez-vous cette résilience qu'on constate, c'est au nord Kivu, malgré la guerre, malgré tout ce qui se passe, ben, les gens ont des initiatives, il y a ce dynamisme entrepreneurial, on voit même la ville de Goma, comment elle se transforme au jour le jour, des belles routes, des belles constructions. Comment expliquez-vous tout ça?
Moi, je crois que je dis, c'est dans la souffrance que nous réalisons le potentiel que nous avons. Si vous regardez les peuples d'Afrique du Sud, c'est au moment où ils étaient dans l'apartheid qu'ils ont développé ces chants magnifiques que nous entendons à gauche, à droite. Vous voyez les Noirs américains qui ont vécu l'esclavage et la ségrégation, qui aujourd'hui, encore une fois, ont été en mesure d'émerger dans les domaines comme le sport et à Barack Obama dans la politique, etc. Je crois que quand vous regardez l'Est, vous avez la menace de l'éruption volcanique que nous connaissons, et il n'y a pas longtemps encore nous avons eu un des épisodes. Vous voyez la guerre, vous voyez la misère, vous voyez toutes ces choses qui se sont abattues sur cette population.
Le lac avec le gaz.
Exactement. Mais il y a eu une volonté de transformer ces défis ou ces obstacles en opportunités que nous voyons encore aujourd'hui. Quand on est arrivé en 2005, c'est à peine si on avait des routes asphaltées, vous êtes dans votre véhicule, c'est comme si vous étiez en train de faire du cheval quelque part, tellement il y avait des trous. Mais aujourd'hui, vous voyez, plusieurs de nos routes à Goma sont asphaltées, on n'avait pas beaucoup d'électricité, on a maintenant 3 ou 4 compagnies d'énergie électrique, une compagnie solaire, et vous avez de plus en plus des quartiers qui sont éclairés en ce moment, vous voyez le changement de l'aspect tout à fait infrastructurel de la ville où de plus en plus de bâtiments et de maisons sont en train d'être construites. C'est en fait de se dire que le monde a voulu nous condamner, mais nous voulons nous démarquer. Et je crois que les Gomatraciens et les gens de l'Est en général ont fait ça très bien. C'est-à-dire, on leur jette des citrons, et bien ils en ont fait des citronnades. On leur a jeté des pierres, et bien ils en ont construit des édifices. Le volcan a voulu nous jeter la lave sur nous, et bien une fois que la lave s'est solidifiée, on a pris ces mêmes laves solidifiées, on a fait des matériaux de construction.
Extraordinaire. Si un jour Camille Toto disparaissait, qu'est-ce qu'on va retenir de vous? Quelles sont les valeurs? Quel héritage vous allez laisser aux générations futures?
Waouh, une question très profonde qui m'a été posée en d'autres termes. Mon but n'est pas nécessairement de voir le produit fini. Mon but est d'avoir contribué à l'édifice de sorte que ma contribution aujourd'hui puisse faire en sorte que les générations futures puissent bénéficier de cela. Mais quand il y a 7 ans, nous avons eu Anaël qui est venu dans notre vie, c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé, je le fais pas simplement par conviction, mais je le fais parce que je veux que Anaël vive dans le Congo de mes rêves. Et je vais donner mon temps, mon énergie, mes ressources, tout ce que j'ai et que je suis, pour me rassurer que les valeurs d'intégrité, du possible, de croissance, de développement, d'unité, d'amour, vont être inculquées maintenant, afin que la RDC de demain soit un pays où tout le monde trouvera qu'il fait bon vivre.
Bien, pasteur Camille Ntoto, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette émission Grand Témoin. Et on a parlé de vous, on a découvert qui vous êtes. En tout cas, grand merci et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine Grand Témoin qui a eu l'honneur de recevoir le pasteur Camille Ntoto, initiateur de l'ASBL Un Jour Nouveau. Merci de nous avoir suivis. Polydor Bansunga a assuré la mise en onde au micro. Jody Daniel Kachama, tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.